sur la prière comme une relation avec Dieu. La prière, c'est une relation avec Dieu. C'est le but du salut. C'est que nous soyons réconciliés. Et réconcilier, ça veut dire qu'on retrouve une relation avec Dieu que nous n'avions plus. Nos péchés nous séparaient de lui. Et Christ a donné sa vie sur la croix. Il est allé donner son sang dans le ciel à son Père afin, nous dit l'Épître aux Hébreux, de nous amener à Dieu. Nous ne sommes pas sauvés pour avoir la vie éternelle indépendamment de Dieu. Nous sommes avant tout sauvés pour avoir une relation avec Dieu. Et la vie éternelle, c'est de poursuivre cette relation pour toujours avec le Seigneur sans plus les obstacles du péché. Dieu soit béni. Amen. Parce que des fois, on a du mal dans notre relation avec Dieu pour bien des raisons. Alors, dans l'Ancien Testament, déjà, le Seigneur voulait nous apprendre que quand on péchait, on devenait impur, et que le temps de l'impureté, il n'y avait plus de possibilité de communion avec Dieu. Hein, ce sont tous ces textes du Lévitique notamment, qui nous disent que quand quelqu'un touchait quelque chose d'impur, par exemple, ben, il était déclaré impur. Alors, combien de temps, ça dépendait des fautes, hein, c'était un jour, une semaine, ça dépendait des moments. Mais en gros, quand quelqu'un se souillait par le péché, par une impureté défendue, alors il ne pouvait plus aller au culte, s'approcher de Dieu. Il y avait un délai d'impureté. Et dans ce délai d'impureté, il n'y avait pas de relation possible avec Dieu dans la participation au sacrifice, au culte, à tout ce qui était présenté dans l'Ancien Testament. Et il y avait un rite à accomplir pour purifier et à la fin de cette purification rétablir la relation avec Dieu. Alors on va lire dans 1 Jean chapitre 1er verset 9 ce texte bien connu. 1 Jean chapitre 1er verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Il y a deux choses dans ce verset. Il y a le pardon et la purification. Pour nous pardonner et pour nous purifier. Et le pardon et la purification, ça se touche, ça se rattache, mais ce n'est pas exactement synonyme. En fait, l'Écriture nous présente le péché sous diverses images. Le péché est une dette que l'on devant à Dieu. Et le pardon, c'est la remise de dette. Le péché aussi est une souillure, une impureté. Et on a besoin alors, pas du pardon, mais de la purification. Pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Le pardon, en fait, ça a trait à notre conscience. Quand on pêche, on a une dette dans la conscience. On a le poids de la dette, on a un remords, on s'en veut, on se culpabilise. Eh bien, le pardon, c'est pour enlever cette condamnation et nous donner la paix. Alléluia. Alors, son sang nous pardonne. Mais après, il faut rétablir la communion avec Dieu. C'est pour cela qu'il est dit que le sang de Jésus nous pardonne et nous purifie. Comme dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un contractait une impureté, il était lui-même impur et donc sa relation avec Dieu était momentanément interrompue. Et il fallait un rite de purification pour rétablir la relation avec Dieu. Et ce verset que nous connaissons beaucoup, souvent nous lisons vite, sans réaliser cet arrière-plan vétérotestamentaire qui nous enseigne que nous avons non seulement besoin de la remise de dette, du pardon, mais nous avons besoin aussi d'être purifiés pour pouvoir être rétablis dans notre relation avec Dieu. Et Dieu soit béni. Le sang de Jésus accorde le pardon et la purification. C'est-à-dire que quand nous chutons, nous pouvons être libérés de la condamnation de notre conscience et rétablis dans notre relation avec Dieu. Amen. Parce que là, ce qu'il y a dans notre tête, dans notre conscience, c'est nous. Mais quelque part, le plus important, c'est de retrouver Dieu. Alléluia. C'est de retrouver une relation avec le Seigneur. justement dans les psaumes de la prière, je l'ai appelé indiqué comme ça, la prière relationnelle dans les psaumes. Psaume 102, verset 1er. Psaume 102, verset 1er. Et vous ne trouvez pas des fois qu'on manque de foi dans le sang, on prie, on se repent, et on croit que le Seigneur nous pardonne, mais on n'ose pas encore s'approcher de lui. Mais son sang nous purifie. Et donc nous permet à nouveau de nous rapprocher de lui. Alléluia. Psaume 102, verset 1er. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Amen. Alors, souvent on dit, il ne faut pas se plaindre. Moi, je constate dans les psaumes que parfois, on se plaint auprès de Dieu, devant Dieu. Amen. La prière est une relation avec Dieu. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, on ne va pas le louer comme si tout va bien. On va certainement continuer d'espérer, de croire, de louer, mais en exprimant aussi nos doutes, nos peurs, nos craintes, que ça ne va pas, nos plaintes. Il répond sa plainte. La vie de prière ne doit pas être une vie, je dirais, religieuse, où on va avoir une prière standardisée, répétitive. La prière avec Dieu doit être l'expression de notre vécu. Toutes les journées ne sont pas les mêmes. Alors, nos prières changeront tous les jours. Parce que nos prières ne sont pas déconnectées de la réalité de nos vies. Puisque la prière est une relation avec Dieu, c'est en fait vivre notre vie avec lui. Amen. Et nous avons besoin d'avoir progressé dans la vie de prière pour ne pas prier par devoir, mais prier par relation. Amen. Parce que nous sommes en relation avec Dieu grâce à la rédemption qui nous a accordé le pardon et la purification. Le psaume 119, verset 26. Psaume 119, verset 26. Voilà ce que l'homme de Dieu dit. Psaume 119, 26. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Amen. Magnifique parole. Là, ici, l'homme de Dieu dit, je raconte mes voies, je raconte ma journée. Je raconte mes problèmes, je raconte ce que je vis. Je raconte mes voies. Est-ce que vous ne trouvez pas que trop souvent, nous vivons seuls nos journées, nos semaines. Et nous oublions trop souvent de raconter à Dieu notre journée. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais parfois, quand votre épouse ou votre mari rentre, vous aimez peut-être dire, « Alors, aujourd'hui, comment ça s'est passé ?» Et on discute, on partage. C'est intéressant. On a une relation, on vit ensemble. C'est bien, c'est bon, on en a besoin. Sinon, on est malheureux. Si on est renfermé sur soi et qu'on ne partage rien, c'est scientifiquement prouvé, même le cerveau s'approche. Mais, au-delà des uns et des autres, notre plus grand besoin, c'est de raconter à Dieu. Amen. Et il est écrit, et tu m'exauces. Amen. Et tu m'exauces. Je ne crois pas en la foi, je crois en Dieu. Amen. Je veux dire par là, vous n'êtes pas obligé, quand vous êtes en difficulté, de vous persuader de croire et de dire « Je crois que tu vas m'en sortir pour être exaucé. » Ça, c'est avoir foi en la foi. Je n'ai pas foi en la foi, j'ai foi en Dieu. Alléluia. Et il vous est tout à fait autorisé, si vous n'avez pas la foi dans ce moment-là, de raconter votre voix et de dire « Seigneur, c'est dur. Seigneur, j'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir. Ils sont plus forts que moi. » Que de fois David, dans ses psaumes, à crier, ils sont plus forts que moi, j'ai des ennemis nombreux qui m'entourent, au secours, Seigneur. et Dieu l'a exaucé. Racontons nos voies. Peut-être même aussi nos choix, nos décisions. Vous et moi, malheureusement, on l'a tous payé. Quand parfois, on a décidé sans même en parler au Seigneur. Pas tout de suite, mais avec le temps, on a fait certains choix que nous avons payés. Parce que nous avons quand même une tendance à être indépendants. Indépendants du Seigneur. Cet homme de Dieu dit, je te raconte, ma voix, tu m'exauces. Et après, il dit, alors enseigne-moi tes statuts. Que c'est beau. Raconter à Dieu sa vie, son cœur. Et le Seigneur s'en occupe. Et comme ça, nous, après, on peut s'occuper de sa parole. Enseigne-moi tes statuts. Alléluia. Vous savez, le fardeau est beaucoup plus léger quand on l'a confié au Seigneur. Et on peut s'occuper d'autre chose. On peut s'occuper des statuts de Dieu. Parce que quand on s'occupe toujours de nos vies à nous, parce qu'on y pense constamment et qu'on n'en parle pas au Seigneur, qu'on ne raconte pas grand-chose à Dieu, mais qu'on se débrouille tout seul, ben à la fin, on n'a plus jamais le temps de s'arrêter pour les statuts, les commandements du Seigneur. Racontons-lui nos voies, il s'en occupera. Et nous pourrons dire, enseigne-moi tes statuts, je suis prêt là. Je t'ai assez raconté ma vie maintenant. Il ne faut pas que tout tourne autour de moi. Je t'ai raconté mes voies. Raconte-moi ta parole. Alléluia. Alors, bien sûr, il y a des limites. Il y a la prière publique, la prière privée. Dans la prière publique, on ne va pas dire certaines choses que l'on va avoir l'autorisation de dire dans la prière privée. Mais néanmoins, je pense que quand nous prions ensemble, il faut être sincère. Il faut raconter ce qu'il y a dans le cœur. Amen. Dans le culte, je ne suis pas forcément à dire que toutes les prières doivent être des louanges. Non. Parce que parfois, le cœur peut être gros, il peut y avoir une supplication qui monte, et l'esprit même l'inspirait. Et il me semble que l'essentiel quand nous prions ensemble, bien aimés, c'est que nous prions ensemble en relation avec le Seigneur dans la sincérité. Amen. Attention de ne pas trop intérioriser votre vie chrétienne. Et ça, c'est très français. Nous pensons beaucoup, nous raisonnons beaucoup, nous repassons dans nos têtes, même parfois nos désobéissances, ou ce qu'on devrait faire pour le Seigneur, ou nos problèmes. Et on intériorise énormément. Je suis surpris des fois, quand on est au restaurant, de constater sur les tables autour de moi que parfois même, face à face, un coup, passe le repas sans se parler. Mais je me dis, ils se sont venus pourquoi? Bon, pour manger, vous me répondez, oui, bon, mais c'était pas que le but. Et peut-être même, nous, dans nos familles, dans nos maisons, parfois même les enfants ne viennent plus à table. Mais des fois, on est à la maison et on est ensemble, mais on n'est pas là. Léo, chérie, chérie, reviens, parce qu'on est ailleurs. Mais il me semble que parfois, je vais avoir ce même problème de manque de relation avec le Seigneur. Le Seigneur pourrait des fois nous dire, arrête de penser, arrête de tracasser, arrête de tourner en boucle, viens nous parler. Amen. Ça ferait du bien, ça. Vous savez qu'un chrétien, il peut finir par déprimer s'il garde toujours tout pour lui. Confions-nous dans le Seigneur. Alléluia. Racontons-lui nos journées, nos buts. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui est lourd. Dis-le au Seigneur jusqu'à ce que ce soit fini. Alléluia. Et vous verrez, c'est vraiment efficace. Nous sommes dans une société où sur le même banc de l'arrêt de bus, les gens ne se parlent pas, mais sont en train de parler à d'autres personnes. On ne se parle plus, on n'a plus de relations avec les autres, de moins en moins de vraies relations, in vivo, avec les autres. Et ça, plus qu'on ne le pense, ça nous impacte même dans notre foi et dans notre relation avec Dieu. C'est en vrai qu'il faut être en relation avec Dieu. En prière. Et la prière n'est pas un devoir religieux, c'est l'expression de ce que nous vivons dans le cadre d'une relation acquise grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, allez, on termine par Hébreux chapitre 4, verset 16. Et après, JP, si vous voulez bien terminer la réunion avec un chant, même si on a déjà chanté, si vous n'avez pas d'autre, c'est très bien. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Il me semble vous l'avoir déjà fait la remarque. Le mot assurance en grec, c'est littéralement liberté de parole, discours sans réserve. Quand il y a des années, j'ai découvert le sens de ce mot, j'ai été très étonné. Liberté de parole, discours sans réserve, assurance. Alors, pourquoi traduire assurance? Ben ça, c'est vrai en fait. Vous retrouvez avec des gens qui ne vous apprécient pas. C'est tendu. Vous avez peur. Qu'est-ce que je vais dire? Si je dis un mot de travers, comment ça va être perçu, etc. Quand on est avec les hommes, parfois on doit faire attention. Non. Et des fois, on fait, quand c'est tendu, on fait encore plus de bêtises. Parce que comme on a peur, c'est là qu'on vient encore plus de travers. Mais avec Dieu, on peut avoir toute cette assurance qu'il nous aime, que c'est le trône de la grâce. C'est pour ça qu'on peut s'approcher avec assurance, parce que c'est le trône de la grâce. Vous vous rappelez d'Esther? C'était pas le trône de la grâce, hein? La personne qui osait entrer dans le palais royal sans l'autorisation de l'empereur, vous voyez, elle a eu tellement peur. Elle a demandé à tout Israël de jeûner, veiller, si je me souviens bien, 3 jours. Elle risque sa vie. Nous risquons pas notre vie quand nous nous approchons de notre Père. Et là, heureusement, l'empereur lui tend le sceptre, lui fait grâce. Mais c'est quand même une belle image du trône de la grâce. Nous avions peur. Moi, je me souviens, une fois que j'ai entendu l'évangile, j'avais peur. Parce que j'étais pécheur. Et j'ai demandé pardon, je me suis repenti. Et il m'a tendu le sceptre de la grâce. Alléluia. Et rappelez-vous, dès la première fois que nous avons entendu l'évangile, ça a tout de suite été ce trône de la grâce. C'est le même jour. Amen. Alors, approchons-nous avec assurance, avec la liberté de tout lui dire. Bien sûr, il faut toujours parler au Seigneur avec respect, avec crainte. Mais on peut tout à fait respecter Dieu et lui poser certaines questions. Tous les prophètes l'ont fait. Job également. Et puis de toutes les façons, je pense que quelque part, c'est manquer de respect à Dieu que de lui cacher des choses. Parce que vous croyez qu'il ne le sait pas. Il sait même des choses dans nos cœurs qu'on ne peut même pas encore lui dire parce qu'on n'en a pas conscience. Avant que je parle, tu pénètres de loin ma pensée, c'est écrit. Tu pénètres de loin ma pensée. Ça veut dire, même ce qui est inconscient, tu le connais. Alors, ayons une prière relationnelle avec Dieu. Alors, on est dans une époque de méthodologie, de méthode. Chaque année, bientôt, on a une méthode de prière. Je ne crois pas aux méthodes de prière. Je crois en une relation d'homme. Amen. Non, c'est pas mal d'avoir. Moi, j'ai la liste des frères et sœurs, parce que de temps en temps, je la regarde pour ne pas oublier les uns ou les autres. C'est vrai. Mais je ne vais pas répéter tous les jours les mêmes noms, les mêmes sujets. Ça va me lasser. Mais on est tous différents. Mais le plus important, c'est vraiment d'avoir une prière fraîche, sincère, en relation avec Dieu. Amen. Alors, voilà, quelques mots. Je dirais que cette liberté de parole, c'est le contraire de cacher. Ne cachons pas à Dieu nos vies. Ne faisons pas comme Adam et Ève. Racontons-lui. Ayons une relation avec le Seigneur. Et ça, ça va changer énormément les choses. Un jour, il y a des années pourtant, les assemblées étaient en meilleur état, à mon avis, qu'à notre époque. Il y a très longtemps, un pasteur disait, si seulement les chrétiens priaient un quart d'heure par jour, ça changerait beaucoup de choses. Il n'était peut-être pas très positif, mais si nous pouvions entretenir une meilleure relation, amen. Voilà quelques encouragements, je l'espère, à ce que nous puissions avoir cette vie avec Dieu, que ne soit pas forcément religieuse, mais qu'il soit réel et sincère.